Bonjour à toi, enfant du futur immédiat. Toi qui nous écouteras parce que t'as trouvé notre programme d'une manière quelconque. La première chose qu'un enfant apprend à faire, et la première chose avec laquelle on note son intelligence, c'est de nommer les choses, et ainsi fut le verbe « EPA, papa ». Dans les protocoles réseau Internet, les machines discutent entre elles en s'appelant par les adresses chiffrées qu'on appelle une adresse IP. Celles-ci ne sont pas forcément faciles à gérer pour les humains. D'ailleurs, maintenant que nos téléphones sont tous un carnet d'adresses intégrées, je doute que vous connaissez plus d'une dizaine de numéros de téléphone de vos proches, voire même moins de la demi-douzaine pour la plupart d'entre nous. C'est un peu gênant en cas d'accident quand on a le téléphone cassé d'ailleurs. Pour accéder à un site Internet, on peut le faire à partir de son adresse numérique, mais c'est nettement moins évident. Il y a des cas qu'on retrouve facilement, par exemple une page web grâce à un moteur de recherche, comme on en a parlé il y a 15 jours, mais pour un serveur non indexé, pour une adresse email, et que sais-je encore, n'avoir qu'une adresse numérique est tout sauf pratique. Heureusement, il est possible de donner un nom d'alias à votre ordinateur et donc indiquer que le site cpu.pm pointe vers l'adresse IPv4 89 234 156 173 ou en IPv6 2A01 2.6600 2.8083 2.AD00 2.2.1. On répète 2.2.1 à la fin parce que c'est un alias et c'est rempli de 0, donc c'est un peu compliqué. Cela peut se faire en éditant le fichier host, en général dans le répertoire ect de votre ordinateur. Et d'ailleurs, à la racine, pardon, slash ect. Et d'ailleurs, c'était plus ou moins comme ça que faisaient les gros centres informatiques reliés aux origines d'Internet dans les années 70 et 80, avec les responsables systèmes qui s'envoyaient par email les modifications d'adresse IP et leur nom. Mais comme ce n'était pas pratique à maintenir, surtout une fois passé de 10 machines à quelques centaines en 84, les responsables décidèrent de créer un annuaire commun, le système de nom de domaine, ou Domain Name System. Oui, je m'entraîne déjà pour l'émission la semaine prochaine dans le sujet et l'anglish au travail. Avec une convention de nommage allant de la droite vers la gauche. Tout à droite, vous avez le TLD ou Top Level Domain ou encore Domaine de premier niveau. Les sites TLD génériques qui furent d'abord créés permettaient de catégoriser et donc de comprendre à qui on s'adresse. En .com à une entreprise, en .edu à une université, en .org pour une organisation à but non lucratif, en .net à un prestataire technique d'Internet, en .gov pour un ministère ou tout autre organisme du gouvernement fédéral américain, en .mil à un ordinateur du Pentagone, classement totalement à part rien que pour faire plaisir aux illuminés des théories du complot. De ces 6 TLD, on commença par la suite à créer des TLD en 2 lettres ou CCTLD rattachés à des pays. Le code est lié à une nomenclature déjà existante, la ISO 3166-1, et vous connaissez le .fr qui est celui de Cocorico, la France. Il y a le .uk pour le Royaume-Uni, le .de pour l'Allemagne, sauf que tout le monde a oublié qu'il existe un .us pour les États-Unis, sans compter les pays qui ont disparu de nos jours, comme le .su pour l'URSS, que l'on peut encore demander, ou le .cs pour la Tchécoslovaquie. Je vous expliquerai, on avait une géographie très très compliquée dans les années 80. Pour ceux qui sont revenus de l'émission de la semaine dernière. Sauf que pour tout le monde, sauf que avant le TLD, vous aviez le qualificatif de nom de domaine, donc par exemple radio-fmr. C'est en général le nom de la marque d'une entreprise. Le qualificatif est un TLD, donc radio-fmr plus net, avec un point, c'est un symbole plus, hein, voilà, c'est un multiplié, bon, c'est un point. Forme un nom de domaine, radio-fmr.net, c'est le nom de domaine de la radio. Et c'est pour l'obtenir que l'on loue à l'année. Et en dessous, on peut mettre des sous-domaines, comme par exemple www, pour www.radio-fmr.net, ou encore admin, ou encore pc-2-dascritch. Mais ces sous-domaines sont quasi gratuits. Je peux en créer autant que je veux, adossé à mon nom de domaine. Leur création relève de la responsabilité de celui qui a alloué le nom de domaine et à son entière discrétion. En fait, ces registres DNS sont les derniers éléments réellement centralisés d'Internet. Et l'enregistrement d'un nom de domaine se fait en s'adressant directement ou non à une entreprise gestionnaire du TLD voulu. Et la règle d'obtention est la plupart du temps très simple. Si le nom est disponible et que tu paies, premier arrivé, premier servi. Alors évidemment, la question de la légitimité d'un nom de domaine peut très vite être posée. Prenons lotus.com. Alors, d'après vous, laquelle de ces entreprises pourrait y avoir plus le droit que les autres à utiliser ce nom de domaine ? S'agit-il de l'éditeur de la suite logicielle d'entreprise, Lotus 1, 2, 3 et Lotus Notes? Est-ce que c'est le constructeur britannique de voitures de course que vous pouvez vous payer si vous avez été revendeur de la suite logicielle précédemment nommée à quelques administrations? Ou le fabricant de papier toilette ultra doux que vous ne manquerez pas d'utiliser la première fois que vous aurez eu à faire un freinage d'urgence avec votre voiture de course homonyme? Allez, je tue le suspense. Actuellement, c'est IBM qui l'a, ayant racheté l'éditeur logiciel. Afin d'organiser la gestion de ce business et créer, en 1998, l'ICANN, Internet Corporation for Assigned Name and Numbers, qui régule à la fois les règles de ce business, distribue les TLD entre registrars et maintient les serveurs DNS racines qui sont à la base des annuaires Internet. À partir de la fin des années 90, eurent lieu des réservations de noms de domaine dits « en or », parce qu'ils représentaient ceux d'une marque, d'un mot commun ou d'un verbe en anglais, d'une ville ou d'un nom de famille plutôt courant. La plupart de ces noms de domaine aboutissent nulle part, ou plutôt presque nulle part en fait. Un site web était placé derrière une simple page web qui disait que le nom de domaine est disponible à la vente à un prix d'achat singulier. Bon alors, singulier parce que le nombre n'a pas qu'un chiffre, mais plusieurs. Parfois, les possesseurs de certains noms se demandent plusieurs centaines de milliers d'euros et que tant que personne n'est prêt à débourser un tel chiffre, eh ben, ils continuent à louer leur nom pour une dizaine de dollars annuels. Bien évidemment, il y a eu des abus que l'on appelle cybersquatting, l'art non pas de faire de la trottinette en tenue de Robocop, mais bien et bien de revendiquer un nom connu sans en avoir dessus le moindre droit et d'en exiger une somme escrocatoire assez importante. L'ICANN a créé une procédure de résolution en 1999 qui s'appelle le UDRP ou Uniform Dispute Resolution Policy. Pour l'Europe, ces conflits se résolvent devant l'OMPI, l'Office mondial de la propriété intellectuelle. Seulement, si vous êtes dépositaire d'une marque internationale, il faut néanmoins la protéger le plus possible, donc déposer le plus possible les noms de domaine dans le plus de TLD possible. Or, il y a depuis une dizaine d'années une inflation délirante du nombre de top-level domaines, avec parfois des imitations ubuesques, comme pour le .mobi, mais plus souvent, à des tarifs complètement démentiels. Et ça, je suis retombé dedans en voulant déposer un nom de domaine pour l'émission qui redirige vers mon site web, mais qui soit facile à prononcer à la radio, à retenir dans la tête et à écrire sur un téléphone portable. Bon, il est vrai que les noms en trois lettres, en .com, en .net, en .org, sont déjà tous occupés depuis la fin du précédent millénaire. Mais soyons fous, j'ai quand même testé. Sauf qu'en faisant mon shopping chez le registraire Gandhi, j'ai eu des propositions plutôt délirantes, genre cpu.space pour 423,32€ par an. Inutile de dire qu'on obtient vite des prix stratosphériques sans réelle justification. De la liste qui m'a été proposée, j'ai pris les 5 plus chers. Or, qui dit classement dit top, et qui dit 5 dit...
Top 5. Numéro 5.
CPU Market m'a été proposé pour, et toujours d'ailleurs disponible à la location, pour 1353,35€ par an, soit à peu près le tarif qui est proposé dans le centre-ville de notre chère ville.
Numéro 4.
CPU.bagua en deux sinogrammes, oui parce que ça veut dire gossip en chinois, voilà, qui m'est proposé pour 1579,36€, soit à peu près le prix d'un placard à balai dans la banlieue de Paris.
Numéro 3.
CPU.website pour 1670,7€ par an, soit à peu près le tarif, je vais dire, d'une boîte aux lettres sur l'avenue des Champs-Élysées.
Numéro 2.
CPU.online, CPU.site, CPU.review, CPU.software m'ont été proposés pour chacun 3816,18€ par an. On atteint les prix de Londres, là. Et vous allez me dire qui fait les prix quand même de New York en location.
Numéro 1.
CPU.tech m'a été proposé pour 11347,64€ par an. classement non exhaustif effectué en fonction des noms de domaines disponibles et des tarifs proposés par Gandhi.net cette semaine, hors promotion et rabais pour achat en lot. Alors, à noter quand même que ce qui est amusant, c'est que tous ces tarifs-là, tous, sans exception, on tombe en dessous de 10 euros par an si je mets trois autres lettres, ZLO par exemple, ou ZBE. Alors, savoir, à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a posé la question à Gandhi pour une raison absolument stupide, c'est qu'il n'existe aucune référence sur ce qui fait le prix de ces sites, que certains noms soient beaucoup plus chers que d'autres, alors qu'ils ne sont pas encore réservés, donc a priori qu'ils ne sont pas d'opportunité par des particuliers ou des entreprises mis sur une page de parking. Et voici donc la réponse officielle. Donc de Gandhi, je remercie énormément d'ailleurs les équipes juridiques et la chargée de com de Gandhi. Donc leur courrier depuis, et je vous le lis, depuis un peu plus d'un an, 600 nouvelles extensions de noms de domaine sont venues s'ajouter aux extensions existantes et il est courant de constater depuis des différences de prix substantielles sur une même extension. L'enregistrement de zlu.tech, par exemple, serait facturé au tarif standard de 50 euros par an, tandis que le domaine cpu.tech se retrouve propulsé à plus de 11 000 euros. En cause, l'utilisation par les registres de mécanismes dits premium, à savoir l'application à un tarif plus élevé, et une liste de noms de domaines ayant la particularité d'être particulièrement mémorisable, souvent très générique et par conséquent très intéressant en termes de référencement naturel. Qu'ils soient génériques ou qu'ils visent un secteur niche, ces registres établissent leur liste de noms premium parmi ceux qui semblent les plus bankable et en fixent les tarifs de manière discrétionnaire, le bureau d'enregistrement, registrar, Gandhi en l'occurrence, n'ayant d'autre choix que d'appliquer lorsqu'un client souhaitera l'enregistrer, à moins qu'il préfère ne pas le commercialiser. Chaque liste de noms premium est spécifique à chaque nouvelle extension, tout comme la politique tarifaire appliquée. Ainsi, le nom de domaine cpu.tech est-il considéré comme un premium, mais pas les noms de domaine cpu.photo, au pluriel, ou cpu.imo, qui sont commercialisés à un tarif annuel standard, leur attractivité publicitaire étant moindre. Je remercie énormément là-dessus, d'ailleurs, Gandhi, pour cet éclaircissement.
C'est la loi de l'offre et la demande sans la demande.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, je tiens à signaler que, vu que iTélé va changer de nom, je leur propose le nom lol.news, qui est actuellement disponible chez le registrar pour 46 788 euros par an. Mais à ce prix-là, ils n'auraient même plus le prix pour se payer, je vais dire, une matinale. Évidemment, inutile de vous dire que quand j'ai dû choisir le nom de domaine de l'émission, je me suis attardé sur le moins cher, le plus logique et le plus facile à écrire avec un téléphone portable. C'est pour ça que le programme CPU a comme site web raccourci cpu.pm, nom que j'ai donc déposé pour 12 euros annuels, hein, quand même, j'ai pété le score. Le .pm étant le CCTLD de Saint-Pierre-et-Miquelon. Bravo, je vois qu'on connaissait Dom Tom et que j'ai le droit d'utiliser en tant que citoyen français sans plus de démarches administratives. Oui, puisque certains TLD font une démarche administrative. Par exemple, en point Alsace, il faut prouver que l'on vive en Alsace. Mais je le renvoie sur un sous-domaine au cas où. Principe de précaution, j'ai un nom de domaine qui est là depuis 15 ans, on ne sait jamais. Enfin, du futur immédiat, le système de nom de domaine est le dernier service centralisé d'Internet et il est très pratique. La preuve ? C'est que vous écoutez CPU alors qu'on n'enregistre pas du tout dans le même lieu que d'habitude. Il ne repose que sur la location d'adresses, mais il a ses vices. Il est devenu un business très lucratif et l'explosion de nombre de TLD génériques démontre que nous sommes clairement dans une bulle spéculative latente. Il est probable qu'un jour, cette bulle éclate, des noms de domaine ne résolvant, alors dans ce cas-là, plus rien.